Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On est avec Guillaume Lavoie. Salut Guillaume.
Allô, comment ça va?
Écoute, ça va très bien. On continue à suivre cette saga entourant le futur ex-président américain qui est devenu hier le premier président des États-Unis, mis en accusation deux fois dans un processus de destitution.
Deux fois, comme si une, c'était pas assez.
Et puis on dit jamais 203, mais ça pourra pas arriver.
Non, là, ce serait franchement, là, mais avec Trump, on a tellement dit deux fois, non, ceci est pas
c'est
possible.
Ça.
Mais là, je vais peut-être me risquer, là, je pense que là, on aura fait le tour et on va voir, là, il reste quand même une semaine. Mais c'était assez fascinant. Après le vote au Congrès, on s'attendait à, normalement à ce qui est exactement comme dans le film dans lequel il avait joué il y a un an. Trump va sortir, va dire que c'est une vendetta contre lui, etc. Donc, c'était le silence radio chez lui. Et à peu près tout le monde autour de lui, il a fait une vidéo dans laquelle il disait à quel point il était contre la violence et tout. Et je vous dirais que ça en a probablement choqué plus qu'autre chose. Plusieurs disaient c'était gentil. On aurait dû entendre ça depuis 4 ans. On aurait surtout dû entendre ça mercredi dernier. C'était le jour là de l'insurrection. D'ailleurs, il va y avoir 3 mercredis assez extraordinaires. Hein. Insurrection, 7 jours plus tard, accusation, 7 jours plus tard, inauguration. Alors, voilà notre triptyque, là.
On va avoir des gros mercredis, mais, tu sais, d'un point de vue stratégique, Trump n'a pas ben le choix d'agir comme il le fait en ce moment, surtout que ses entreprises sont menacées en ce moment. Il va tout perdre, là, si ça continue.
Ben, c'est ça qui est assez fascinant. En plus, bon, là, ça prend 17 sénateurs républicains pour le condamner, parce qu'on sait qu'on aura, ça prend 2/3. Alors, on a nos 50 démocrates, mais 2/3 de 100, c'est 67. Il n'y a rien de ça qui va arriver tout de suite. Mais là, même si Trump se pardonnait lui-même, et qu'il soit condamné ou pas, là, Trump va vivre quand il va redevenir un citoyen ordinaire, ça peut être le festival des poursuites judiciaires. D'abord, il y a le code criminel dans les États. On sait qu'en l'État de New York, et même en Géorgie, il y a des cas de criminels où Trump aurait peut-être posé des gestes qui amèneraient des accusations. Mais même s'il se pardonnait lui-même, ça protège du droit criminel fédéral, mais pas du droit civil. Alors, je vous donne un cas là que j'invente, mais il peut tout à fait se matérialiser. Imaginons qu'il y a des commerçants à Washington qui, à cause de l'émeute, l'insurrection, ont eu leur vitrine brisée. Bien, ils pourraient poursuivre au civil Donald Trump pour à cause de votre incitation à l'émeute,
ben oui,
à causer des dommages.
Puis là,
ça veut pas dire qu'il va être condamné pour ça, mais ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de dédales judiciaires là, pour M. Trump dans un avenir assez rapproché. Là.
Oui, parce qu'il a fait un discours d'appel au calme, mais beaucoup trop tard.
Beaucoup disaient trop peu, trop tard. C'est un peu comme le pyromane qui se trouve un casque de pompier dans le fond d'un casier. Là.
Ben, moi, je disais,
c'est joli pour la photo, mais personne n'y croit. Là.
Je disais sur Twitter la semaine dernière que Trump avait mis le feu à la Maison-Blanche et c'était maintenant lui qui appelait les pompiers. C'était assez ironique.
Un peu ça, moi, je dis toujours, allez relire, magnifique histoire, Frankenstein. On a créé une bête et à un moment donné, son pouvoir finit par nous échapper, puis ça se retourne contre nous. C'est un peu ça qui est en train de se passer pour M. Trump, mais surtout pour le Parti républicain, qui là a tellement profité d'une base complètement disjonctée, qui est en train d'en payer un prix très, très élevé. Là.
Et il n'a rien dit sur la victoire de Joe Biden. Et par ailleurs, dans la tradition américaine, l'ancien président laisse une lettre au prochain. qu'est-ce qui va se passer? Je serais curieuse de lire le contenu de la lettre s'il y en a une.
Il faudra voir. C'est jamais. Enfin, on le sait pas. On sait que c'était une tradition qui existait. On a vu quelques lettres de président. La plus célèbre et la plus touchante et la plus extraordinaire, c'est George Bush père, qui est exactement dans le cas qu'on est là. George Bush père se présente pour un deuxième mandat et il perd. Et en plus, il perd contre un petit gouverneur de l'Arkansas qui n'aurait jamais dû pouvoir même être compétitif, une espèce d'alignement parfait des étoiles, et Bill Clinton gagne. Et la lettre qui tient sur une page, là, manuscrite, dit en gros, vous êtes mon président. puis je vais tout faire, puis je vais prier pour vous, puis faut que vous soyez capable d'avoir du succès, parce que votre succès, c'est le succès du pays. On n'est pas là, là, avec Trump, du tout, là. Alors, on verra s'il laisse une lettre. Peut-être que ça dira, s'il vous plaît, faites donc comme Gérald Ford, puis donnez le pardon à celui qui vient d'avant. Mais là-dessus, Biden l'a dit,
non.
Pas juste une fois, je ne le pardonnerai pas.
Il va laisser une carte cadeau au McDonald's. 10 républicains ont voté contre Trump?
Oui, et ça, ça nous montre qu'il y a quand même eu un glissement. Il n'est pas énorme. Là. Bon, sont à peu près 200, les républicains. À la Chambre, ils sont 435. Il y a une majorité de démocrates. Puis ça prend 218 ou 217 pour condamner, mais il y a quand même à peu près 200 républicains. Là. Et il y a 200 républicains qui ont voté contre la mise en accusation de M. Trump. Donc, c'est quand même assez énorme là, comme marge de manœuvre. Mais il y en a quand même 10 qui ont voté pour le mettre en accusation. Et il y en avait zéro il y a un an qui avait voté contre Donald Trump. Donc, il y a un petit glissement. Parmi eux, on en jasait hier, il y a Liz Cheney, là, la fille de l'autre, qui, elle, est numéro 3. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben c'est un peu comme dans nos caucus à nous, là, ben il y a un président du caucus, il y a un whip, il y a des fonctions parlementaires. Ben les fonctions parlementaires, tu les occupes parce que tes collègues votent pour toi. Alors là, aujourd'hui, puis vous voyez un peu une espèce de guerre civile à l'intérieur du Parti républicain, il y a là des gens, on les appelle le Freedom Caucus, le caucus de la liberté, c'est un peu une aile très à droite ou très radicale à l'intérieur du Parti républicain, qui dit, elle, Liz Cheney, c'est pas vrai qu'elle va avoir un rôle important dans notre parti.
Ouais.
Alors là, la bataille est commencée. Là.
Et c'est quoi cette histoire, là, éventuelle procédure d'impeachment contre Joe Biden à compter du 21 janvier?
Alors, ça prouve qu'il y en a qui veulent pas perdre de temps.
Oui.
Et c'est risible, là, mais c'est une vraie histoire. Il y a une nouvelle élue qui s'appelle Taylor Greene. Enfin, c'est Marjorie Taylor Greene, qui est élue de Géorgie. Elle est soutenue par QAnon. Alors ça, on est dans les théories de conspiration, la puissance 10 000. Et elle a dit, oui, moi, le 21 janvier, je vais déposer une demande de destitution, donc une mise en accusation.
Oui, c'est la madame qui fait des vidéos avec des guns, là, juste pour qu'on se situe, là.
Et ça, elle se promène avec un masque.
Parfait.
Censure et tout. Et là, c'est complètement abracabrantesque. Bon, ça arrivera pas, là, parce que normalement, à la fin, c'est la Chambre des représentants qui parle. Alors, évidemment, je fais un parallèle qui est pas bon, là, mais si vous êtes un député indépendant assis dans le fin fond du Parlement Ottawa ou à Québec, vous avez beau dire, demain matin, il va y avoir une loi ici, là, c'est pas ça qui va arriver. Puis d'ailleurs, les pères fondateurs étaient sages. Le processus de mise en accusation, c'est pas simple. La condamnation, c'est encore plus compliqué. Alors, c'est là, mais on est à des années-lumière que ça puisse avoir quelque vérité que ce soit. Alors, à date, elle est toute seule. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont dire oui, non? Je ne pense pas. Mais on voit encore...
Ah, mais elle, là, c'est la championne du coup de pub puis de faire parler d'elle pour les mauvaises raisons. Donc, elle continue. Je voulais qu'on se parle, Guillaume, des accointances du Parti démocrate avec les célébrités, OK? Là, on va avoir l'inauguration de Biden sous peu. On a révélé hier que ce serait Lady Gaga et J-Lo qui allaient performer lors de cette soirée-là. C'est une grande tradition, là, même le Parti républicain le fait. Mais je vois plusieurs commentateurs qui, depuis quelques mois, quelques années, remettent un peu en question la proximité qu'a le Parti avec des vedettes américaines. Est-ce qu'on envoie le bon message? Est-ce qu'on n'aurait pas avantage un peu à s'éloigner des « people », comme disent les Français?
Ah, mais ça, c'est toujours ça. D'ailleurs, là, chez une certaine droite, vous entendez souvent là au Parti républicain les gens hurler contre Hollywood. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là. C'est pas un hasard que, même dans le temps d'Obama, expliquez-moi pourquoi il faisait ses soirées de financement à Hollywood plutôt qu'en banlieue de Washington. Ben, c'est parce qu'en banlieue de Washington, il n'y a pas une scène. L'argent à coups de millions, ça se ramasse avec des producteurs, des artistes, on se fait prendre en photo. Il y a un peu de glamour là-dedans. Mais ça a déjà été la même chose quand, par exemple, quand c'était Reagan, vous aviez Michael Jackson qui allait se faire prendre en photo à la Maison-Blanche. Nat King Cole a déjà été, lui c'était Kennedy, mais James Brown, le gars qui est branché sur le 220, là, lui il était au party d'inauguration de Nixon. Les Beach Boys étaient là pour Reagan. Alors, depuis toujours, tout le monde veut se coller sur soit le pouvoir, soit la célébrité, soit l'argent. Alors, faut pas se surprendre qu'il y ait une espèce espèce d'accointance entre l'espèce de pouvoir cool à gauche et puis c'est un classique que les artistes sont toujours un peu plus à gauche. Regardez chez nous à une plus petite échelle, puis là j'en mets là.
Hein, Fais attention.
Vous avez les mêmes accointances là.
Ben
hein,
oui.
Qui prend des cafés avec qui?
Ben c'est vrai. Puis en même temps,
l'argent vraiment dans le cadre politique.
Non, puis en même temps, Guillaume, je me dis si l'un des défis du Parti démocrate, c'est de rejoindre en quelque sorte le peuple. Je trouve que ça peut un peu leur mordre là, derrière de s'acoquiner comme ça avec des gens, des multimillionnaires qui ont l'air élitistes. Tu sais, dans l'optique, les gens là, peut-être qu'il y aurait avantage. En tout cas, je sais pas. Le Parti républicain fait appel à des vedettes du country. Peut-être je rebrasserais des idées si on veut aller chercher un électorat plus populaire.
Chacun est dans son écosystème.
Ben oui, t'as raison.
Par exemple, les vedettes du NASCAR, c'est beaucoup plus proche des républicains. Parce que c'est les républicains qui vont au NASCAR. Mm. Hein, c'est un peu la blague, là. Si vous aimez le NASCAR, vous votez républicain. Si vous buvez du café latte avec de la cannelle, vous votez démocrate. Alors évidemment, c'est une espèce de blague là, pour comprendre les patterns électoraux, mais c'est à peu près pareil. Alors, il y a vraiment là, chaque électorat a ses patterns et vous voyez un peu là, qui s'acoquine avec qui. Mais ce genre de côté célébrité et autres, puis là, ben il y a un mythe. Là, c'est comme si les conservateurs, vu qu'on les voit moins, étaient moins riches.
Ils sont juste rejets.
Tout le monde veut être cool.
C'est
mais regardez, qu'est-ce qu'il y a en commun entre, je sais pas moi, George Clooney puis le gars qui travaille sur la chaîne de montage chez GM, pas grand-chose. Alors, à un moment donné...
Ils boivent du Nespresso. C'est la seule point commun.
Alors, mais c'est vrai que cette idée d'associer l'argent, la célébrité et le pouvoir économique a permis de créer le narratif que les élites, c'est pas nous, ça. Puis vous l'avez autant à gauche, chez des Alexandria Ocasio-Cortez, chez les Bernie Sanders... C'est la même affaire à droite avec Trump et le mouvement de rebellons-nous contre les élites. Et c'est ça qui nourrit cette idée de la conspiration. C'est comme si les élites, là, pensez-vous que les élites attendent en ligne à l'urgence? Pensez-vous que les élites là ont de la misère avec leurs impôts? Ben non, ils appellent leur ami.
Ben c'est vrai.
Ils appellent leur ami qui est le président. Alors c'est un narratif qui joue, mais à la fin, c'est parce que ça prend de l'argent.
Oui.
J'ai un film à vous recommander. Bullworth, si vous voulez que les politiciens arrêtent de vous mentir, donnez-leur du temps d'antenne gratuit. Et ça, ça changerait la politique vraiment.
Guillaume Lavoie, merci. On te retrouve lundi.
Oui, au plaisir.
Au revoir.